Matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Lucie Robquin des Échos et Christophe Barbier, éditorialiste, sont nos esprits libres de ce mardi. Bonjour vous deux.
Bonjour David.
Merci d'être avec nous ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Allez, on va faire la grève de la polémique de la ministre de l'Éducation nationale et on va parler de Donald Trump pour commencer. En tête dans le caucus de l'Iowa, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Détrompez-moi.
Qui peut arrêter Trump à part Trump? Peut-être quand même la justice dans les différents procès, pas tant pour l'empêcher d'aller au bout de sa candidature, mais pour reconstituer une opposition démocrate homogène et enthousiaste qui voudrait absolument empêcher Trump de gagner. On sait quand même que tout ça va se terminer dans quelques swing states. Trump peut arrêter Trump si l'excès de turpitude finit par mobiliser le camp d'en face. Hier, cette nuit, ce qui était incroyable dans ce caucus, c'est non seulement son avance, parce qu'il est au-dessus de 50%, donc dès le 5 mars, il espère, avec le Super Tuesday, avoir la majorité qu'il faut, enfin le nombre de délégués qu'il faut. Ce qui était le plus stupéfiant, c'est sa manière de remercier ses rivaux et adversaires battus, donc DeSantis et Nikki Haley. C'est de leur dire merci d'avoir bien participé au jeu. Comme si finalement, ses adversaires étaient devenus ses comparses, ses complices, ses
partenaires.
Des figurants. Voilà, chargés de le mettre en valeur. Ça, c'est terrifiant. C'est quand même une démocratie malade qui accouche d'une telle gérontocratie où deux quasi-octogénaires vont s'affronter pour la première puissance du monde.
Lucie Robquin.
Mais ces deux concurrents sont ses meilleurs alliés. Effectivement, ils sont dans un mouchoir de poche. Hein, ils sont autour de 20%. Et du coup, ils s'entretuent plus qu'ils n'attaquent Donald Trump. Donc hier, c'est Ron DeSantis qui est passé devant Nikki Haley. La semaine prochaine, dans le New Hampshire, ce sera Nikki Haley qui passera devant Ron DeSantis. En attendant, Donald Trump a à peine besoin de faire campagne. Il est largement devant, comme disait Christophe, au-dessus de 50%. C'est parfait.
Lucie Robquin des Échos, est-ce qu'aux Échos, on a déjà un dossier prêt sur la politique économique préparée par Trump et ses équipes et les mesures qu'il a dans ses cartons? On parle de protectionnisme.
Mais bien sûr, on en a des pages, et on sait que Donald Trump, version 2, sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus méthodique que le Donald Trump de 2016. Il a préparé une équipe acquise à sa cause, alors qu'à l'époque, il avait des fonctionnaires qui étaient plutôt contre lui. Donc, il va avoir une force d'action absolument phénoménale. On sait qu'il veut sortir de l'OTAN, on sait qu'il veut remettre en cause tous les accords multilatéraux qui le lient à ses alliés occidentaux. Ça va être quelque chose de totalement différent de 2017. Il faut s'y préparer. L'Europe doit s'y préparer. Et voilà, on attend une réponse des occidentaux face à cette nouvelle donne.
On voit bien la tornade Trump qui tomberait sur l'Europe si il se retirait de l'OTAN. Ça changerait tout pour l'Ukraine, ça changerait beaucoup pour Israël. Et puis il y a aussi tout ce qu'il pourrait faire sur l'état de droit aux États-Unis. Les États-Unis, quand même, depuis 1776, incarnent quelque chose en termes de constitution, de vertu civique. Le chef du monde libre sera-t-il encore le chef d'un monde libre?
On passe au chef de l'État qui parle ce soir à la télévision, chef d'un pays libre, avec une conférence de presse à 8h15 qui interrompt les journaux télévisés pour, entre guillemets, imposer la parole du chef de l'État qui répond aux questions des journalistes dans une conférence de presse d'un nouveau genre, puisqu'elle est programmée à un horaire assez inhabituel. On avait déjà vu ça sous la Ve République, Christophe Barbier.
À cette heure-là, c'est inédit. Les conférences de presse tenaient plutôt leur place dans l'après-midi ou dans la matinée à un horaire de journaliste, pas un horaire de grand public. Là, on voit bien qu'Emmanuel Macron fait une conférence de presse, mais les journalistes sont là pour mettre en valeur ses réponses. Parce qu'il espère bien toucher le public directement, le public qui sera devant sa télévision. Nous vendre une conférence de presse XXL, c'est essayer de nous vendre aussi une performance de showman. Ça va durer jusqu'à quelle heure? 23h, minuit, 1h du matin? Quel record veut-il battre, le président? Au début de son premier quinquennat, il avait décidé de défier les deux fauves des médias, Edoui Plenel, Jean-Jacques Bourdin, réunis dans une même séance de questions avec la Tour Eiffel derrière en décor. Ben là, voilà, il s'offre pour relancer ce quinquennat qui a du mal à démarrer, une espèce de grand show. Encore faudra-t-il qu'il y ait du contenu, des annonces. Parce que les conférences de presse du passé, elles ont apporté des annonces. On se souvient de Gaulle, de Pompidou, pas seulement pour l'affaire Gabriel Russier, mais aussi par exemple de Chirac annonçant la reprise des essais nucléaires, et même de Nicolas Sarkozy, car là c'est du sérieux.
Lucie Robquin, le temps s'accélère. La semaine dernière, Madame Borne démissionne. Ensuite, on annonce Gabriel Attal, 34 ans. Ensuite, on annonce Rachida Dati. Ensuite, une conférence de presse. Il y a une compression des événements, alors qu'on aurait dû donner du temps au temps autrefois. Qu'est-ce que vous pensez de cette accélération du mouvement présidentiel? À quoi sert-elle?
C'est une compression des événements médiatiques, mais effectivement, on a du mal à voir quel projet structurant va permettre de donner du souffle à ce quinquennat qui était très mal parti. aussi, hein, beaucoup l'ont souligné. On attend la réforme que pourrait annoncer Emmanuel Macron, qui permettra de dire là, on avance à nouveau. On sait qu'on attend un projet sur la fin de vie, on attend l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ce n'est pas ça qui va galvaniser les Français. Voilà, donc on sait que Macron excelle dans ce genre d'exercice marathon en prime time à la télévision. La difficulté va être de donner du contenu. Il grille par ailleurs la politesse à son Premier ministre, hein, qui prononcera son discours de politique générale la semaine prochaine. Que va-t-il laisser à son Premier ministre? C'est toute la question.
Au plan économique, on peut espérer quoi? Quelle initiative peut-il prendre, Lucie?
Alors, on peut toujours se consoler en se disant que les autres font encore moins bien. L'Allemagne est en chute libre. Elle a encore sa croissance a baissé de 0,3%. Je pense qu'il va montrer que la France résiste plutôt mieux que certains de ses voisins européens. Sur le plan économique, il y a eu cette promesse de baisser les impôts des classes moyennes de l'ordre de 2 milliards d'euros. Ça va être quelque chose d'extrêmement difficile à mettre en œuvre compte tenu de l'état de nos finances publiques. On sait que c'est Gabriel Attal lui-même qui en a pris l'engagement. J'attends de savoir comment le président va sortir de l'ornière de ce point de vue-là.
Christophe Barbier, est-ce que le président peut enjoindre les Françaises et les Françaises de se remettre à faire des enfants ?
Ah, ça serait une bonne chose. En tout cas, il y a une absence de politique familiale depuis maintenant 3 quinquennats, puisque ça a commencé à se dérégler fortement sous François Hollande. On considère du côté de l'État que c'est plus la peine d'encourager les Françaises et les Françaises à avoir des enfants. Alors que quand on regarde la volonté des Français, notamment des Françaises, c'est-à-dire l'écart entre le nombre d'enfants réalisés et le nombre d'enfants rêvés, il y a un véritable problème. Il y a beaucoup de couples, il y a beaucoup de femmes qui renoncent à avoir un enfant. On sait pourquoi. Problème de logement, problème de revenus, problème de carrière, problème d'angoisse quant à l'avenir. Il faut absolument réduire cet écart. Il faut que chaque couple qui a envie d'avoir 2 ou 3 enfants puisse réaliser ce projet. Et on n'y est pas. Et on voit bien que l'effondrement des chiffres de la natalité porte cette inquiétude. Elle en porte une autre aussi. Moi, je voudrais m'adresser aux partisans du droit du sang. On sait ce que c'est que le droit du sang, c'est vous êtes français parce que vos deux parents sont français, sinon vous n'êtes pas français. On voit l'effondrement de la natalité parmi les couples dont les deux membres sont français. Alors que la natalité reste vive chez les couples où il y a un membre qui n'est pas français, voire deux membres qui ne sont pas français. Donc ça veut dire que si vous faites le droit du sang, vous aurez de moins en moins de français. Dans quelques décennies, vous aurez 15 millions de vrais Français et 50 millions de non-Français dans notre pays. C'est-à-dire que ceux qui sont partisans du droit du sang, notamment à la droite de la droite de la droite, ils organisent le grand remplacement qu'ils dénoncent par ailleurs. L'enjeu, c'est de dire à ceux qui font des enfants en France et qui ne sont pas forcément Français eux-mêmes, c'est de leur dire de s'intégrer et de dire vos enfants, intégrez-les, assimilez-les à ce grand pays. Nous allons faire de vos enfants d'excellents Français.
Lucie Robquin, il y a des politiques économiques pour encourager à faire des enfants. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas?
Ce qui marche déjà, ce sont les places en crèche. Emmanuel Macron avait promis d'en créer 300 000. Il a d'ores et déjà dit qu'il n'y arriverait pas. On fera à peine la moitié. Désormais, il parle d'une indemnisation des parents. Alors ça, c'est la fausse bonne idée. On donne un chèque aux parents à défaut de leur donner une place en crèche. C'est pas en donnant 200 euros à des parents qu'on va compenser le coût d'un enfant tout au long de sa vie. C'est une fausse bonne idée. Après, on peut pas dire que la France ne donne pas d'argent pour la politique familiale. C'est 30 milliards par an quand même. Hein. Oui. C'est considérable par rapport à nos voisins.
Et ça marche pas alors?
Ça ne marche pas.
Il y a pas de politique identifiée quand même.
Oui, voilà. Tout ce qui fonctionne, c'est de faciliter la vie personnelle et professionnelle des parents. Ça, on le fait de moins en moins bien par rapport à l'Allemagne, par exemple, qui a toujours été la lanterne rouge. On se rapproche un peu de ce modèle où on a du mal à donner des solutions aux parents. 20% des parents ne trouvent pas de mode d'accueil pour leurs enfants et beaucoup doivent arrêter de travailler. C'est là qu'il faut agir.
Et souvent, d'ailleurs, le deuxième enfant, voire le troisième, est quand même conditionné par le fait d'avoir une ou deux chambres en plus. Et compte tenu de l'état du secteur du logement en France, eh ben, c'est pas gagné, Lucie.
Oui, oui, tout à fait. Il est impossible d'avoir une famille nombreuse. Enfin, impossible. Il est compliqué d'avoir une famille nombreuse à Paris. Et la crise du logement va encore aggraver les choses dans les années qui viennent. Donc voilà, 7% de naissances en moins cette année, c'est absolument effroyable. Et les années qui viennent risquent d'être encore pires.
Christophe, il y a une question quasi philosophique. Il semble ces dernières années que la société française, ses intellectuels et ses politiques, se soient focalisés sur le droit pour tous, quel que soit le sexe, l'orientation sexuelle, d'avoir un enfant, et beaucoup moins sur la nécessité de faire des enfants pour le pays. Oui. Donc, il y a l'enfant au nom de l'individualisme et de la liberté de chacun, mais l'enfant au nom des intérêts supérieurs de la nation, exactement, parlons comme le général de Gaulle, passe au deuxième plan.
C'est-à-dire qu'on a complètement renversé l'ordre des priorités. C'est-à-dire qu'on part de la minorité, la plus minoritaire possible, en se disant mais il faut donner des droits, il faut éviter les discriminations, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Ils sont victimes, ils sont malheureux, alors qu'on devrait partir par le haut, en disant, c'est quoi la France dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Quel pays on veut? Comment on va construire ce pays? Ah, il nous faut des enfants? Quelle politique on met en place pour avoir des enfants? On a trop arrêté de penser la France comme une nation avec un destin et une grandeur à défendre, mais beaucoup plus comme un agrégat d'individus qui chacun ont droit à râler, à obtenir des droits. Et c'est pas fini, puisqu'avec le débat sur la GPA, la gestation pour autrui, qui va s'ouvrir, c'est-à-dire le droit des couples d'hommes à avoir des enfants, on va avoir le même problème.
Expliquez-moi, et on terminera là-dessus, pourquoi lorsque Papa Ndiaye confie qu'il a scolarisé ses enfants dans le privé, ça passe tout seul. Expliquez-moi pourquoi lorsque Madame Oudéa Castéra annonce qu'elle a scolarisé ses enfants dans le privé, on peut pas tous prévoir qu'on va devenir ministre de l'Éducation nationale. Hein. On peut pas mettre nos enfants dans le public 20 ans auparavant d'abord, en anticipant tout. Expliquez-moi pourquoi ça fait un tollé. Il y a 17% des élèves en France sont scolarisés dans le privé. Vous avez 2 200 000 élèves dans le privé. Ils sont sous contrat la plupart du temps avec
l'État.
Donc
ils sont dans le public, ils comme sont, le rappelait Luc Ferry voilà. À votre micro il y a 2 jours.
Et les profs vont parfois de l'un à l'autre en fonction des remplacements, les fameux. Expliquez-moi pourquoi cette polémique, qu'est-ce qui se passe?
Parce que les syndicats d'enseignants sont de gauche, donc quand le ministre l'est, on ne l'attaque pas. Et quand le ministre ne l'est pas, on l'attaque.
C'est aussi crétin que ça.
C'est aussi simple que ça, ça s'appelle la politique.
Je pense que Papa Ndiaye avait dit « Mes enfants sont dans le privé et c'est mon choix », c'était la bonne réponse. La réponse d'Amélie Oudéa Castéra était plus maladroite dans la mesure où elle a dit « Il y a un paquet d'heures non remplacées ». «
Mes enfants sont dans le privé, c'est de votre faute ».
Voilà exactement. Elle s'est placée, elle a donné une parole de parent d'élève et non pas de ministre de l'Éducation. Et je pense que c'est la moins bonne manière de commencer son mandat.
Et pourtant, beaucoup de parents d'élèves mettent leurs enfants dans le privé justement parce qu'ils ont peur de ces profs non remplacés.
Un ministre de l'Éducation ne peut pas parler comme un parent d'élève.
Et puis elle a mis le doigt sur l'absentéisme, c'est un vrai problème dans l'éducation, pas seulement parce que les profs sont malades, mais aussi parce que l'organisation du travail fait qu'ils sont souvent en réunion, en formation, et c'est ça qu'il faudrait reprendre. Et là, si j'ose dire, pointer le grand non-remplacement, c'est le problème de l'éducation nationale.
En ce 15 janvier, nous nous quittons et nous quittons notre duo Barbier-Robquin avec un autre duo, le duo des fleurs de l'Acmé de Léo Delibes. Léo Delibes, mort un 16 janvier 1891. Merci Lucie, merci à vous,
merci
Christophe.
David.
Christophe qui serait Salle Gaveau le 22 janvier prochain avec votre spectacle sur Mozart.